Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13 heures à Ouagadougou, 14 heures à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Politique en Afrique du Sud, l'ancien ministre sud-africain de la sécurité, Bongani Bongo, a été interpellé ce jeudi pour corruption, devenant ainsi la première personnalité politique de haut rang visée par le grand nettoyage promis par le chef de l'État, Cyril Ramaphosa. Considéré comme un proche de l'ex-président Jacob Zuma, M. Bongo, qui préside actuellement la Commission des affaires intérieures au Parlement, a été présenté aujourd'hui devant un juge du Cap, la grande métropole du sud du pays, qui a ordonné sa remise en liberté contre versement d'une caution de 5 000 randes, soit environ 300 dollars. Bongani Bongo est soupçonné d'avoir tenté de faire pression sur une commission d'enquête parlementaire qui a examiné la gestion controversée du géant sud-africain de l'électricité Eskom en 2017. Membre de l'ANC, le Congrès national africain au pouvoir, le leader parlementaire a occupé les fonctions de ministre de la Sécurité d'État pendant 4 mois en 2017 sous la présidence de Jacob Zuma. L'ex-président Zuma, englué dans des scandales, a été poussé à la démission en février 2018 et remplacé par Cyril Ramaphosa, qui a promis de lutter avec vigueur contre la corruption. Politique en République démocratique du Congo, l'ex-président Joseph Kabila a largement dépassé ses plafonds de dépenses autorisés lors de sa dernière année au pouvoir. D'après la Cour des comptes, M. Kabila a consommé 5 fois plus que les fonds alloués par la loi en 2018. Le point avec Eric Manirakiza.
La Cour des comptes dénonce notamment le paiement des dépenses de personnel, l'achat des fournitures et petits matériels, pièces de rechange pour l'équipement et location immobilière. Selon cette Cour, la plupart de ces dépenses non prévues au budget sont des dépenses courantes qui ne participent pas aux efforts de développement du pays. Ainsi, l'ex-président Kabila a dépensé plus de 61 millions de dollars pour des prévisions de dépenses plafonnées à 12 millions et demi de dollars en 2018, année de l'élection présidentielle du 30 décembre. Les recettes ont connu un taux de réalisation de 88%, ce qui n'est pas une performance, regrette la Cour des comptes, en marge de l'adoption du budget 2020. Le Parlement doit adopter d'ici la fin de l'année un projet de budget d'un montant annoncé d'environ 10 milliards de dollars, le double de celui de l'année dernière. Kinshasa n'a pas les moyens de financer ses hôpitaux ni ses routes. Le FMI, Fonds monétaire international, s'était récemment déclaré prêt à consentir rapidement des facilités de crédit pour sortir la RDC de sa pauvreté généralisée, ajoutant qu'il est urgent d'accroître les recettes et de maîtriser et de rationaliser les dépenses afin de consolider la stabilité macroéconomique.
RDC toujours, les députés provinciaux de l'Ituri, province instable du nord-est du pays, ont voté une motion de défiance contre leur gouverneur mercredi dans un climat de tension. Les législateurs ont débuté la séance dans la rue avant de procéder au vote dans un bureau ailleurs qu'au Parlement, car tous les accès à l'Assemblée provinciale étaient bloqués par la police. Eddy Sango a joué en Ituri le gouverneur destitué Jean Bama Nissa.
D'abord, sur le fond du dossier, je dois vous dire qu'en général, c'était 16 pages où il y avait des plaintes plutôt à caractère un peu personnalisé. Mais sur le fond du dossier, il n'y a rien qui puisse nous ébranler. Et puis deux, cette motion nous a été déposée lundi à 11h et avec fond de tension. Nous n'avons pas pu accéder à l'Assemblée, à la le bâtiment de l'Assemblée plénière. Et entre-temps, nous étions aussi fort occupés avec une grande conférence, une table ronde sur l'électricité en Ituri. Nous avions sollicité le report et nous ne pouvions pas entrer, mais nous avons appris après que quelques députés se sont retrouvés et ont décidé ou ont sollicité ou ont pris la décision. Je ne sais pas encore ce que c'est exactement. Je ne suis pas encore notifié pour voir la forme de ce type de décision parce que je n'y étais pas pour demander ma destitution. Donc on en est là. Si la procédure n'a pas été respectée, je ferai un appel au niveau légal, parce que je le sens vraiment auprès de la population et de beaucoup de monde qui ont soutenu notre travail, qu'il y a une déception et nous n'allons pas croiser les bras à cause de 20 personnes.
Mais ils vous accusent, vous, d'avoir bloqué l'accès à l'Assemblée provinciale?
Non, ce n'est pas le gouvernement qui bloque l'accès. Hein. Les instructions de maintien d'ordre public sont données par le gouvernement central, parce que ce qui se passe ici, c'est de la manipulation et malheureusement, ce sont des choses, je l'ai dit au président de l'Assemblée, qui ne sont pas de nature à créer une bonne ambiance. Et donc, la police a pris des mesures de protection de certains édifices dans la ville.
Qu'est-ce qui va donc se passer? Parce que d'après la loi que les députés qui ont voté le 27 sur le 28 qui étaient là, vous devez présenter votre démission au président de la République.
On va voir, on va étudier ça, si la procédure était légale et surtout, comme je vous l'ai dit, le président et le vice-président étaient déjà appelés tout à fait cessantes et ne devaient pas se trouver à Bounia parce que leur démarche est une démarche qui n'est pas législative et qui a un fond qui n'est pas bon et qui n'est pas de nature à créer un espace de dialogue, etc. Donc voilà, nous, on va voir un peu le fond, mais nous avons demandé en tout cas à toute la population de continuer à avoir confiance.
Jean Bamal Nissa, gouverneur de la province de l'Ituri, actuellement sous le coup d'une motion de défiance.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique au Bénin, l'ancien président béninois en exil, Thomas Boniayi, a quitté mercredi soir Cotonou après une visite éclair sans avoir rencontré le chef de l'État, Patrice Talon. Boniayi était arrivé mercredi après-midi accompagné d'une importante délégation de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, impliquée dans la résolution de la crise au Bénin. Mais cette délégation s'est finalement rendue sans lui à la présidence pour échanger avec Patrice Talon. Thomas Boniayi a lui rendu visite à un autre leader de l'opposition, l'ex-président Nicéphore Soglo. La rencontre entre Thomas Boniayi et le président Talon avait pourtant été annoncée officiellement par le gouvernement béninois et confirmée par des proches de l'opposant. Plus de détails sur la visite de Yayi Boni à Cotonou avec Ginette Fleur Adandé, notre correspondante sur place.
C'est à bord d'un vol de Nigeria Air Force que Boniayi a atterri à l'aéroport de Cotonou. C'est une foule de sympathisants et de membres des forces coréennes pour un Bénin émergent qui ont accueilli l'ancien président à l'aéroport. Il était accompagné d'une délégation de la CEDEAO qui s'est dépêchée de prendre la direction du palais présidentiel rencontrer le président Patrice Talon. Yayi Boni a simplement boycotté la rencontre avec son successeur pour se rendre chez Nicéphore Soglo pour un tête-à-tête avant de prendre la direction du domicile de l'une des victimes des violences post-électorales. Selon Nourenia Tchadi, membre des forces coréennes pour un Bénin émergent, la rencontre Talon-Yayi n'a jamais été inscrite dans le programme de Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis pour terminer. Modérés et progressistes se sont divisés lors du débat à Atlanta en Géorgie mercredi soir entre les candidats à la primaire démocrate pour la présidentielle américaine de 2020. Le jeune maire Pete Buttigieg, en pleine ascension, et le favori Joe Biden, critiquant le programme nettement plus à gauche des sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Après un moment d'unité contre Donald Trump menacé par une procédure de destitution, les échanges ont rapidement opposé ces deux camps, le Benjamin à 37 ans de la primaire Pete Buttigieg se présentant en rassembleur. Puis il a taclé Elizabeth Warren, deuxième dans les sondages, en évoquant le débat sur la réforme de la santé qui divise le parti. Son projet est d'un passage vers un système de couverture universelle après 3 ans de mandat, tout comme la conversion immédiate proposée par le sénateur indépendant Bernie Sanders, ne sont pas la bonne approche pour rassembler les Américains. L'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, a martelé qu'en ce moment, la vaste majorité des démocrates ne soutient pas une telle réforme. La sénatrice Warren, 70 ans, a défendu ses propositions progressistes en affirmant que la meilleure façon de rassembler était de construire une Amérique qui fonctionne pour tous, pas juste pour les riches. 17 candidats sont toujours en lice. Le trio de tête s'est consolidé ces derniers mois avec Joe Biden suivi des deux progressistes, Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Mais Pete Buttigieg connaît depuis fin octobre une ascension fulgurante dans les sondages de l'Iowa, un état clé puisqu'il votera le 1er, le 3 février, et plus récemment dans le New Hampshire, qui suivra juste après le 11 février.
Affaires ukrainiennes au Congrès des États-Unis, l'ambassadeur Gordon Sondland, un diplomate proche du président Donald Trump, a directement impliqué mercredi le chef de l'exécutif américain dans l'affaire ukrainienne, renforçant encore un peu plus les soupçons qui valent à Donald Trump une procédure de destitution au Congrès. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
J'ai longtemps